Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Sur une colline portée par le vent de l'entre-deux-mers, Serge et Claudine Chauveau ont réalisé leur rêve. Ils ont acheté une maison d'époque entourée de 10 hectares de vignes. Ils ont donc allié leurs deux passions, ils sont devenus vignerons tout en utilisant la géobiologie pour garder leurs vignes en bonne santé, une pratique qui consiste à sonder les perturbations d'un lieu grâce à des outils spécifiques et à les corriger pour lui redonner un équilibre. Une pratique qui est encore peu connue, souvent discutée, puisqu'elle sonde l'invisible et défie les démarches scientifiques.
Ben oui, donc voilà, Serge Chauveau, géobiologue, bioénergéticien et surtout vigneron en biodynamie depuis maintenant 2017. Et donc voilà, quatre cépages rouges, donc du Merlot évidemment, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon et du Petit Verdot, ce qui est un cépage assez rare, mais qui amène un peu de typicité à notre vin. Et donc on a un vin qui se rapproche un peu aussi des vins du Médoc ou des vins de Graves, parce qu'on n'est pas à dominante Merlot, il y a un tiers, un tiers, un tiers, avec un petit peu de Petit Verdot. Et donc vous verrez, ça amène une petite caractéristique aussi à notre vin, assez sympathique. Voilà. Alors donc là, ça y est, on est dans nos parcelles. Donc à droite, c'est le vin blanc qu'on a planté. Donc quand on est arrivé, c'est une parcelle où il y avait 40 ou 50% de manquants. Donc il n'y avait presque que des pieds morts. Et donc on s'est dit, ben, on va en profiter, on va faire du vin blanc. Et puis après, toutes les autres, on les a gardées, même celles qui vont être déclassées parce qu'il n'y a pas assez de pieds. Nous, on aime bien les vieilles vignes, donc on les garde. On a décidé de ne pas les arracher, donc on fera du vin de France, c'est pas grave. Les gens qui aiment notre vin, ils se foutent complètement que ce soit du Bordeaux, Bordeaux Sup ou du vin de France. Ce qui compte, c'est que ça soit bon et que ça soit sain. Donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça c'est à nous, ça aussi. En fait, on a toutes les parcelles qui sont autour de la maison. Comme ça, on est complètement autonome et on maîtrise tout ce qui se passe sur la propriété.
Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser tout ce qui se passe ?
Si vous voulez, alors on voulait essayer de limiter les contacts avec la pollution chimique des voisins, mais bon, finalement, il n'y a pas trop quand même maintenant. Les matériels font que les produits, on les concentre, ils valent tellement cher qu'ils s'arrangent pour que ça reste sur la vigne. Donc en fait, les voisins ne polluent pas nos vignes, quoi. Enfin, même s'il y en a, c'est vraiment très très peu, quoi. Donc l'idée, voilà, c'était ça, c'était d'avoir les vignes tout autour et de pouvoir regarder ce qui se passe, quoi. Mais bon, on a des voisins qui sont, même en étant conventionnels, qui sont très sympathiques et avec qui on s'entend très bien. Quand on est arrivé, nous, c'était hors de question qu'on fasse du conventionnel. Et donc, logiquement, la biodynamie s'est imposée à nous. Pourquoi ? Parce que la biodynamie, c'est donc juste de la bouillie bordelaise, dans laquelle on met des tisanes, ce qui nous permet d'éviter de mettre trop de cuivre. Donc on met de la bourdaine, de la reine des prés, enfin voilà. À chaque fois que je fais une bouillie bordelaise, on met des tisanes dedans. Et ensuite, c'était d'observer, parce que l'autre thématique importante de la biodynamie, c'est de mettre des préparations. Des préparations qu'on appelle 501, 500P, etc. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passe. Parce que ces préparations-là, c'est un petit peu comme de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre de la bouse de vache avec mélangée à des plantes, etc. On va enterrer ça dans le sol, on va les déterrer, on va les mettre dans un chaudron et on va mettre ça après dans les vignes. Donc si vous voulez, il n'y a quasiment pas de matière, on est dans quelque chose d'ordre homéopathique. Et donc moi, en tant que géobiologue, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ceux qui sont sceptiques, c'est parce qu'ils sont dans la matérialité. Or, en fait, l'homéopathie, c'est pas la matérialité, c'est l'information. Et là, on est dans l'information, on est dans mon domaine. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait. Et effectivement, il se passe des choses intéressantes. Avec une 500P, il y a des choses qui se passent. 500P, c'est on va travailler le sol, et on va travailler plutôt les fréquences du sol. Alors qu'avec une 501, qui est donc du quartz broyé, eh bien, on va travailler sur des fréquences, on va plutôt travailler sur la capacité de la vigne à synthétiser, à faire la photosynthèse. Et donc là, on va avoir des phénomènes géobiologiques qui vont venir en géobiologie, des phénomènes qui sont très connus, comme des courants telluriques, des cheminées cosmotelluriques, avec des couleurs qui correspondent à des fréquences qui sont différentes, et avec des actions qui sont différentes, et qui vont venir amener une homogénéité de la fréquence, optimiser la fréquence.
Alors, ok. Donc, concrètement, quand vous dites on l'observe, comment vous l'avez observé? Comment vous l'avez analysé?
Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas un professionnel de la géobiologie de la bioénergie, vous ne pouvez pas l'observer. Parce que moi, je l'observe avec une antenne. On est dans l'invisible, on est dans l'information. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est lié à un système de croyance. Si vous êtes matérialiste, vous allez dire « cela n'existe pas ». Mais si vous êtes comme moi, je passe une partie de mon temps à travailler là-dessus, moi, l'invisible, il ne faut pas me dire que ça n'existe pas. Je travaille 2 ou 3 heures par jour là-dessus. Donc en fait, voilà, et je suis capable d'analyser ce qui est dans l'invisible. C'est-à-dire, l'invisible, c'est bien de le dire, mais après, il faut être capable de dire ce que c'est comme phénomène, quelle couleur ça a, quelle fréquence, qu'est-ce que ça va faire. L'homme, il veut tout dominer. Mais quand on comprend ce qui se passe, on est bien plus fort, parce que la nature, elle fait des choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Et si on se penche et qu'on essaie d'analyser ce qui se passe, eh ben, on obtient de meilleurs résultats. On n'a pas besoin d'avoir recours à la chimie, qui a forcément des effets secondaires.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer de manière assez synthétique ce qu'est la géobiologie ?
Alors la géobiologie, c'est un peu la médecine de l'habitat. La médecine de l'habitat, pourquoi ? Donc en fait, en géobiologie, avec notre antenne, on va détecter en fait les perturbations d'origine naturelle, mais on va détecter aussi les perturbations d'origine artificielle. Donc ça, c'est les deux grands éléments de la géobiologie. Les perturbations d'ordre artificiel, on les connaît, c'est les perturbations électriques, champs magnétiques, et les hyperfréquences, la téléphonie, la 5G, etc. Donc ça, on les connaît. Donc le géobiologue, il a des appareils professionnels qui mesurent ces choses-là. Donc ça, et c'est la deuxième partie dont je voulais parler, c'est que le géobiologue, il y a les perturbations d'origine artificielle, créées par l'homme, et puis il y a les perturbations naturelles. Elles sont moins connues, mais c'est souvent celles-là qui posent problème. C'est les courants d'eau, les failles, tous ces phénomènes-là, et on n'a pas conscience de leur existence et de leur nocivité. C'est-à-dire, sous une maison, par exemple, je dirais basique, avec 2-3 chambres de 120 mètres carrés, vous allez avoir 6 ou 7 courants d'eau. Donc, dans une chambre, vous avez toujours un courant d'eau. Voilà, c'est les gens l'ignorent et dormir sur un courant d'eau, ça va générer en fait, vous avez du rayonnement gamma qui monte au droit de ce courant d'eau et ça va créer des radicaux libres, ça va générer chez vous des radicaux libres et donc petit à petit, au lieu de se reposer la nuit, il travaille et donc ça génère des pathologies à terme.
Donc le rayonnement gamma, c'est quoi ?
Alors le rayonnement gamma, c'est en fait, il est issu de la fusion du noyau. La Terre, vous savez, est en fusion à l'intérieur, le noyau. Et donc le rayonnement gamma, c'est de la radioactivité, mais à très faible dose. Et donc de la radioactivité, donc c'est ça qui va créer ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des radicaux libres. Et alors forcément, on est dans de la radioactivité naturelle, donc c'est très très faible. Le problème, c'est que si vous dormez dessus, vous allez passer le tiers de votre vie dessus.
Vous faites la géobiologie avec vos vignes, donc vous me donnez l'exemple d'une chambre. Là, quand je regarde le lit de vos vignes...
Vous me dites que j'ai du travail.
Non, c'est pas ça, c'est que je veux comprendre les vignes, pour le coup... Ouais. Elles ont été plantées,
oui.
Donc c'est pas elles qui ont choisi leur emplacement.
Non.
Elles ont été forcées.
Oui.
Voilà. Donc elles ont été forcées sur un terrain qu'elles n'ont pas choisi naturellement.
Oui. Ouais.
Donc forcément, ça a des conséquences.
Exactement. C'est-à-dire que vous allez avoir des pieds qui vont être plus forts que d'autres parce que mieux situés que d'autres. Et donc, en fait, un pied, il peut être au-dessus d'un courant d'eau, d'une faille, mais il peut être aussi sur un réseau cosmotellurique, et donc avoir, au contraire, des forces supplémentaires. Et donc, si on se balade dans la vigne, vous allez voir qu'on a des pieds qui sont forts et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, c'est la nature. Alors moi, ce que je fais surtout, c'est que je veille à ce qu'il n'y ait pas de nuisance. Et donc, je corrige. Pour que justement les pieds, puisque un pied de vigne, contrairement à nous, il n'a pas la mobilité, donc il ne peut pas échapper à la nuisance. Donc le travail dans la vigne du géobiologue, ça consiste à supprimer les nuisances. Ici, vous voyez, on a des branches qui sont tout à fait convenables, avec un diamètre normal, vous voyez, pour plier. On va avoir des belles grappes, puisque le... Voilà, on a des branches qui sont sympathiques. Après, on va les voir sur le haut. Vous allez voir, là, les branches sont un peu plus faibles. Alors après aussi, ça peut provenir aussi d'un manque d'éléments organiques, d'azote ou de choses comme ça.
Oui, ou de leur hérédité aussi, non ?
Oui, aussi, oui, aussi. Alors voyez, par exemple, ici, moi j'ai demandé à ce que ça soit coupé très court, parce que c'est très faible. Vous voyez ce pied-là, par exemple ? Il est très faible, donc là on n'aura que quelques grappes parce qu'il est voilà, c'est un pied qui est un peu en souffrance. Vous voyez la différence entre ça et celui qu'on voyait tout à l'heure, ou même ne serait-ce que ça déjà. Celui-là, c'est un petit peu plus fort, et là, celui qu'on avait tout à l'heure, c'est encore plus fort, vous voyez ?
Vous voyez ça, la mobilité de la branche ?
Non, la grosseur de la branche. On est sur la même parcelle. Sur le même cépage, les pieds ont tous été plantés en même temps, mais ils n'ont pas la même force. Les vignerons, quelle que soit la méthode avec laquelle ils travaillent, bio, ce sont des gens qui observent la nature. Et donc, ils vont voir qu'à cet endroit-là, il est régulièrement obligé d'en replanter un. Même si un pied, même s'il est sur un courant d'eau, il va vivre. Mais il vivra moins bien et il mourra plus jeune. J'ai des photos, moi, comme je suis vraiment spécialiste aussi de la géobiologie, sur les arbres, des arbres magnifiques qui sont sur des croisements de réseaux telluriques. Il n'y a pas un hasard, vous avez tous les autres arbres à côté qui sont normaux, et lui, il est exceptionnel. Mais le hasard n'existe pas dans la vie. S'ils sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et quand vous êtes un géobiologue, vous trouvez tout de suite pourquoi. C'est parce qu'il y a des croisements de réseaux très forts qui sont favorables à la vie de ces arbres. De même que des fois, la forme des arbres, vous allez sur le bassin, par exemple, vous allez voir des pins qui sont comme ça.
En spirale.
En spirale. Là aussi, c'est pas un hasard, c'est de la géobiologie.
Et donc ça, comment vous allez voir, par exemple, avec vos appareils, que celui-là, il est à un endroit dans le sol qui ne va pas ou qui est perturbé?
Donc c'est avec mon antenne. Je sors mon antenne et donc je détecte les courants d'eau. Alors moi, il n'y en a plus ici parce qu'ils ont tous été corrigés. Donc je les regarde et j'essaie de détecter les courants d'eau. Alors je vais simuler qu'il y en ait un, parce que comme je les ai corrigés, on peut pas les sentir. Mon antenne, quand elle tourne, ça me permet de détecter les courants d'eau. Et puis après, moi, je travaille sur le courant d'eau pour qu'il n'y ait plus les perturbations.
Qu'est-ce que vous avez travaillé sur le courant d'eau ?
Eh bien, en fait, alors travailler sur le courant d'eau, c'est une technique que j'ai mise au point. La technique, elle consiste à... En fait, le rayonnement gamma, pour l'eau, quand elle coule, elle cherche à aller en profondeur. Le rayonnement gamma, lui, il part du centre de la Terre et il veut remonter par le plus simplement possible. Et pour lui, le plus simple, c'est les cavités souterraines. Il a moins d'efforts à faire. Il est fainéant, en fait. Et il remonte par les trous. Il passe d'un trou à un autre parce que c'est plus simple. Et donc, lui, ce qu'il détecte, c'est quelque chose qui est lié à l'air. Et en fait, eh bien, je modifie cette information-là. Voilà, en modifiant, en fait, ce qu'il faut, c'est modifier l'information et lui faire et faire croire au rayonnement gamma que c'est plus de l'air, que c'est de la terre. Et lui, il va croire qu'il, pour lui, il n'y a plus de trou, donc il va à côté. Le travail, c'est avec notre conscience, c'est ça. En fait, on ne sait pas qui on est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire et où on va. On a, en fait, une conscience qui nous permet de faire plein de choses. Sauf que la plupart du temps, quand on dit qu'on ne sait pas utiliser notre cerveau, on est loin d'imaginer notre déficience. Parce qu'en fait, on est tous capables, avec notre cerveau, mais surtout notre conscience, qui n'est pas le produit du cerveau, on est capable de faire des choses. Moi, j'interviens pour des châteaux en géobiologie, parce qu'en fait, qui dit rayonnement gamma sous une cuve, dit mortalité plus importante des levures qui contribuent aux fermentations, donc avec des problèmes de fermentation. Même si un courant d'eau, souvent sous une cuve, il va prendre qu'une partie de la cuve, mais sur cette partie-là, il va générer de la surmortalité des levures. Et donc, en fait, l'intérêt de faire appel à un géobiologue qui sait enlever les perturbations, hein, parce que la plupart ne le font pas. Il y a des géobiologues qui vont vous dire la cuve, il ne faut pas faire de vin dans cette cuve-là, quoi.
Il faut la déplacer.
Et quand c'est des cuves en béton comme moi, par exemple, c'est impossible. Dans un chai, les cuves, ça, c'est du volume, quoi. C'est difficile à faire. Pour moi, ça va pas, ça. C'est trop compliqué pour un vigneron. Alors que vaut mieux enlever la perturbation, c'est plus facile. Je suis ingénieur de formation, hein, donc je travaille à Bordeaux Métropole, donc en tant que chef de projet, responsable de la construction d'une ligne de tram. Donc quelqu'un au départ qui est très matérialiste. Je ne crois que ce que je vois. Et puis voilà, c'est un jour en fait, un été, on regardait une émission à la télé, on faisait des échanges de maisons en fait à cette époque-là, et on a vu une émission qui parlait de la géobiologie. Et là, j'ai senti un peu comme une révélation. J'ai dit à Claudine, mon épouse, c'est ça que je veux faire. Puis voilà, tout a commencé là. Donc, en arrivant, j'ai ma secrétaire, je commence à lui parler de ça. Puis elle me dit, je connais quelqu'un à Bordeaux qui fait de la géobiologie. Elle m'a prêté un bouquin. J'ai commencé à lire le bouquin. Et puis voilà, je suis parti, j'ai fait la formation, j'ai fait tout le cursus géobiologie complet, tout le cursus bioénergie complet. J'étais arrivé au bout, et puis on avait une autre passion avec Claudine, on était passionnés par le vin. Et puis, donc en fait, rapidement, quand on a su qu'il y avait la biodynamie, qu'il y avait des gens qui faisaient, qui avaient une approche très, très bio, respectueuse de la nature, et qui, en plus, allait voir dans l'invisible. Du coup, la géobiologie et le vin s'en sont rapprochés, et ça a donné forme à la biodynamie, quoi. Il y avait une logique, en fait. On travaillait l'invisible sur le vin, et donc il y avait une logique. Et donc, on a décidé d'acheter une propriété, ce qui s'est fait en 2017. Et donc, ça a été le début d'une grande aventure, puisqu'en fait, moi, j'avais jamais travaillé la vigne, jamais travaillé dans le chai, jamais fait marcher une pompe, jamais fait de vin, jamais vendu de vin. Claudine n'avait jamais fait de l'administration du vin, parce que le vin, c'est un alcool, donc on est suivi par les douanes. C'est très compliqué. Et puis, il y avait tout le côté commercial, etc. Donc, c'est quasiment 5 métiers en un. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Ça a été un peu difficile au départ, mais en fait, ça nous a construit. Et ça n'a fait qu'enrichir en fait mes connaissances en géobiologie et en bioénergie, quoi. Du coup, c'est devenu quelque chose qui m'a construit intérieurement, mais qui aussi me permet d'acquérir des connaissances au contact de la nature, en observant ce qui se passe sur le sol, la vigne et sur le vin. Qui un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, parce qu'avec trois métiers là, c'est un peu compliqué. Ben, j'espère pouvoir faire un livre et pouvoir parler de tout ce que j'ai pu observer dans la nature. Et le but, c'est d'arriver à faire un produit qui soit... C'est-à-dire, en fait, un vin sain, ça ne me suffit pas, quoi. C'est-à-dire, en fait, un vin sain, c'est très bien, c'est le début, mais après, ce qu'il me faut, c'est un vin sain, mais qui soit bon. Donc ça, c'est le Graal absolu, donc c'est ce que je recherche. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, le vin, la vigne, aura été sans doute l'expérience la plus enrichissante voilà, que j'aurais pu avoir dans toute ma vie, quoi. Un accélérateur de particules. Parce qu'avant, je faisais du sport pour éliminer en fait le trop plein d'énergie, de stress que je pouvais avoir ou de mal-être. Et puis la compréhension de ce qu'on voit pas. Au départ, on change de vie, on a un idéal, et puis finalement, on se retrouve aussi face à ses propres difficultés, ses démons, quoi. C'est-à-dire, on a rêvé le futur métier, mais il y a des choses qu'on voit qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Et ça, il faut le transmuter. C'est-à-dire qu'en fait, nos défauts, il faut en faire des qualités. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand on change de vie. Et nous, la première année, ça a été compliqué, quoi. Vous arrivez, faut tout apprendre. On perd la moitié de la production avec les volatiles. Le jour des vendanges, il se met à pleuvoir. Pourtant, au mois de septembre, c'est pas toujours le cas, mais nous, c'était ça. On connaissait rien, donc on avait demandé à notre œnologue de nous dire combien il fallait de vendangeurs, mais il n'y en avait pas assez, puis surtout c'était des citadins, c'était des gens de Bordeaux, et en plus ils avaient les pieds dans la boue, faut se mettre à leur place, ils venaient nous aider, ils n'étaient pas rémunérés, et sous la pluie, les vendanges c'est vachement moins sympa, parce que c'est déjà assez dur. Donc vous voyez, des fois quand vous changez de vie, c'est pas évident, hein. Et puis après, petit à petit, les choses s'arrangent. Il faut être patient. Il faut pas faire demi-tour. Quand vous changez de vie, il y a toujours une période difficile. Il faut la passer. Il faut justement transformer ce qui est difficile, transmuter ce qui est difficile. Et puis après, ça devient intéressant. Donc voilà, moi, c'est ce côté-là qui me plaisait dans le vin. C'est que quand vous tenez une bouteille dans la main, bah, vous avez aussi le vigneron. Vous tenez un peu le vigneron dans votre main. C'est quelque part un peu de lui que vous avez, avec ses défauts, ses qualités. Et voilà, donc c'est ouais, sans doute ce côté-là qui me plaisait bien. Ouais, vous voyez, c'est dans son jus, hein, mais c'est ce que je souhaitais. Hein. Moi, je voulais pas avoir de thermos, par exemple, de choses comme ça. C'est pour chauffer le vin. Il y en a, c'est-à-dire quand le raisin arrive, on le chauffe à 70 ou 80 degrés pour un peu le stériliser, le purifier. Du coup, il y a moins de risques de dérive du vin. Mais du coup, enfin moi qui suis géobiologue, pour moi, quand on cuit quelque chose à plus de 65 degrés, il est mort. Alors, vous voyez, sur la bouteille, on retrouve les fameux triangles, les symboles de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, que l'on retrouve dans les fermentations, que l'on retrouve dans le sol, que l'on retrouve dans la vigne, que l'on retrouve dans le vin. On n'a pas conscience que ces éléments-là sont en nous. Et ils le sont. Et en fait, l'idéal, c'est qu'ils le soient, mais de façon harmonieuse.
Où l'élément feu, par exemple, se trouve-t-il dans la vigne ?
L'élément feu, par exemple, il va être apporté par le soleil, mais il peut être apporté par la chaleur de la terre aussi. L'élément air, donc ça va être le vent, par exemple, et puis l'élément terre, donc c'est le sol. Mais donc après, ces éléments-là vont varier aussi en fonction de la position des astres dans le cosmos. Ah, ça y est, je me doutais que ça allait vous passionner. Alors, donc après, vous voyez, par exemple, nous, on est très vigilants. La Lune, qui est rattachée à l'élément eau, quand on est sur des périodes où la Lune est très forte, des pleines lunes ou des nouvelles lunes, l'élément eau devient très important. Et donc, on est sujet, par exemple, aux champignons. La lune étant l'élément eau va être très fort dans la vigne. Et donc, on va plus facilement avoir des problèmes avec le mildiou. Donc, vous voyez, les éléments, ils sont parfois là où personne ne l'imagine. De même qu'on parle d'agitation des gens au moment de la pleine lune, c'est parce qu'on n'a pas conscience que la lune agit sur nous. Mais elle agit bien sur nous. Elle agit aussi sur la vigne. Donc vous allez voir, donc ça c'est un vin, c'est du Sauvignon. Sauvignon blanc. Avec des sans levure. Vendangé à la main. 30 mg de soufre par litre, c'est-à-dire quasiment pas pour un blanc. C'est un vin naturel. C'est un vin en biodynamie, mais il est aussi vin naturel. Donc ça, vous pouvez le boire. C'est un vin que vous pouvez boire sur des fruits de mer, sur du poisson.
On est quand même dans l'entre-deux-mer, donc c'est ouais. vraiment les vins
et des huîtres.
Ouais.
C'est parfait sur des huîtres.
Arrêtez-vous.
Vous pouvez le boire en apéritif, comme on le fait là. Bon, il est peut-être un peu tôt encore pour l'apéritif. On commence de bonne heure. Quand à 10h30, bon. Mais ouais, c'est sympa.
Non, c'est parce qu'on s'est levé à 5h.
Ouais, c'est pour ça. Du coup, on va manger plus tôt. Le vin, pour moi, c'est comme nous, en fait, si vous voulez. Le vin, il a un corps, il a une âme, il a un esprit.
Ça
ouais.
y est, on l'a perdu.
Ouais, ça y est, ça recommence. Il n'y a rien à faire. Et donc...
Mais alors, pourquoi plus le vin qu'une courgette?
Ah non, mais une courgette, elle a un esprit aussi.
Ah voilà.
Ah mais oui.
Donc pourquoi vous avez fait pousser du vin au lieu de faire pousser des courgettes?
Ouais, parce que c'est différent. On parle de spiritus. Il y a quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille... c'est de l'alchimie. Quand vous faites un vin, quand vous mangez une courgette, effectivement, il y a l'esprit. Mais il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de transmutation, il n'y a pas de transformation. Je m'intéresse beaucoup à l'alchimie aussi. Parce que l'alchimie, quelque part, l'alchimie, c'est partout. Il y a beaucoup d'innovations qui sont liées à l'alchimie. Et donc, en fait, le vin, ce qui est hyper passionnant, c'est les fermentations. Fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Parce que là, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Alors, c'est sûr que d'un point de vue matérialiste, la fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool. Mais d'un point de vue géobiologique ou bioénergétique, c'est bien plus que ça. C'est des phénomènes, c'est des forces, et donc il y a une transmutation alchimique. C'est pour ça que je vous parle de physique, d'âme et d'esprit. Parce que...
Alors pourquoi le cognac c'est plus que de l'esprit, c'est ça que je comprends?
Eh bien parce qu'on a éliminé certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu des fermentations, il y a eu une première étape, il y a eu des fermentations, et après il y a une deuxième étape qui est la distillerie. Et donc là avec la distillation, donc on ne prend plus qu'une certaine partie du vin. Et donc c'est la partie la plus pure. C'est l'esprit du vin. Alors l'esprit, il est aussi dans le vin. Mais il y a aussi l'âme. Dans le vin, il y a plus de choses que dans le cognac. Puisqu'il y a encore l'âme, l'esprit, il y a même le corps. Mais sauf qu'il a changé d'état. Il est plus dans l'élémentaire, il est passé dans l'élément eau. Mais sinon, l'esprit est toujours là. Alors que dans le cognac, vous êtes sur le spiritus pur.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cette série a été pressée, vinifiée et mise en bouteille avec plaisir par Maëlys Détry pour Les Déviations.
Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. À très vite.